disciples missionnaires. Donne-nous un cœur, disciples missionnaires.
Chers amis, bonjour. Avant de reprendre notre lecture de l'exhortation apostolique du pape François sur la sainteté, je souhaiterais lire avec vous ce commentaire du livre de Jonas par Mgr Pascal Roland, évêque du diocèse de Belley-Ars. C'est un bel enseignement qui nous aide à mieux percevoir notre mission dans le monde d'aujourd'hui. Son texte s'intitule « Le défi de l'évangélisation ». Connaissez-vous l'histoire de Jonas? Je vous invite à la lire attentivement, car c'est notre histoire présente. Il s'agit d'un bref récit biblique signifiant au peuple d'Israël sa mission prophétique en ce monde. Soyez attentifs aux deux grandes questions qui le traversent. Qui est Dieu? Car Dieu se fait connaître et se révèle fort différent de ce qu'on l'imagine. Qui sommes-nous? Car Dieu rend manifeste nos sentiments cachés et montre ce que nous devons convertir. L'histoire de Jonas. Vous remarquerez que tout commence par la parole de Dieu qui s'adresse à Jonas pour lui confier une mission. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. » Cette cité réputée pour son idolâtrie fait peur à Jonas, qui part dans la direction opposée. Comme Jonas, nous sommes choisis et envoyés par Dieu auprès de nos contemporains, réputés hostiles ou tout de moins indifférents à la foi chrétienne. La pression du pouvoir économique et financier et les mœurs actuelles nous déroutent et nous donnent le sentiment d'impuissance face au paganisme. Aussi comme Jonas, nous adoptons volontiers des comportements de fuite. Celle-ci prend des formes extérieurement opposées. Les uns excluent les personnes qui n'entrent pas dans leur cadre habituel et ils se replient sur eux-mêmes. Les autres renoncent à poser la moindre exigence, cèdent au relativisme ambiant et diluent leur identité. En fin de compte, les uns et les autres démissionnent par crainte d'affronter la différence, d'entrer en dialogue et de s'engager à cheminer dans l'inconnu avec autrui. Mais revenons à l'histoire de Jonas. Celui-ci, fuyant sa mission, l'équipage du navire au bord duquel il voyage est confronté à une violente tempête qui met en péril la vie de tous. Les membres de l'équipage pressentent que leur malheur est lié à Jonas, qu'ils interpellent vivement parce qu'ils ne semblent pas se préoccuper de leur sort commun. Il s'est en effet réfugié au fond de cale, où il sombre dans un sommeil mystérieux qui ressemble à la mort parce qu'il s'isole de Dieu et des autres. À travers ce récit, Dieu nous signifie que lorsque, comme Jonas, nous fuyons notre responsabilité et n'assumons pas notre mission prophétique en ce monde, nous mettons en péril toute la société. Je suis hébreu, moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Il est étonnant d'entendre que lorsqu'il prend la parole pour la première fois depuis le début du récit, Jonas fait une belle profession de foi. Malheureusement, son comportement n'est pas ajusté à ce qu'il annonce, et son témoignage n'est donc pas du tout crédible. Cela nous interroge sur la cohérence de nos actes avec ce que nous confessons. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Jonas est jeté à la mer et la tempête s'apaise immédiatement. Un gros poisson avale Jonas et le rejette sur la terre ferme 3 jours plus tard. Il entend alors le Seigneur qui réitère sa demande. Cette fois-ci, il obtempère, accomplit sa mission dans les meilleurs délais et voit Ninive se convertir contre toute attente. C'est la manifestation de l'efficacité de la parole de Dieu capable de toucher les cœurs. Mais la suite est déroutante. Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. On aurait imaginé que Jonas se réjouisse de la conversion rapide et unanime de Ninive. Jonas est-il donc jaloux du salut de Ninive? Il se plaint à Dieu. C'est de nouveau l'occasion d'une belle profession de foi. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Celle-ci fait écho à la révélation de Dieu à Moïse au mont Sinaï. Mais si vous relisez ce passage en Exode chapitre 34, il ne vous échappera pas que Jonas omet une partie de la révélation. Il ne parle plus de vérité. Pourquoi cette absence de mention de la vérité dans sa confession de foi? Cela ne signifierait-il pas que Jonas n'a pas encore accepté la vérité de Dieu? Ne vous fait-il pas penser au fils aîné de la parabole du père et des deux fils qui n'a pas encore compris la vérité de l'amour divin? Comme le fils aîné de la parabole vis-à-vis de son jeune frère, Jonas ne supporte pas que les habitants de Ninive soient graciés. De la même manière que le fils aîné préfère se retirer loin du père et de sa maison, Jonas souhaite mourir et quitte lui aussi la scène en sortant de la ville. « Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Jonas s'enfuit de nouveau, cette fois-ci pour s'enfermer dans son ressentiment. Mais voici un nouveau rebondissement autour de l'anecdote d'un ricin qui pousse et meurt en 24 heures. C'est l'occasion d'un dialogue entre Dieu et Jonas. Le récit se clôt sur une question de Dieu. « Toi, tu as eu pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 220 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » On a le sentiment que l'histoire n'est pas achevée. Elle se termine en quelque sorte par des pointillés, un peu comme la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, ou comme l'entretien du père avec le fils aîné de la parabole. C'est plein d'espérance. Il y a une ouverture à la réflexion et une possible décision de conversion. La semaine prochaine, nous entendrons les enseignements que Mgr Roland tire de ce texte. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.
Disciples missionnaires.